Nous voici à Noël. Nous nous réjouissons de ce grand jour de lumière. Et pourtant, le prophète Isaïe et Michée aussi, qui datent de la même époque, annonçaient des jours de ténèbres. Et même dans le passage que nous avons lu, là, du prophète Isaïe, mais qui vient à la fin de son livre prophétique, il annonce la bonne nouvelle, mais il l'annonce aux ruines de Jérusalem. Il a donc fallu que Jérusalem devienne un tas de ruines avant d'entendre la bonne nouvelle de son rétablissement. Le peuple qui vivait et gisait dans les ténèbres a vu une grande lumière. C'est cette lumière, le prologue le rappelle, c'est avant tout le Verbe de Dieu dans son éternité. Et c'est en ce monde, dans l'histoire, qu'il est venu nous voir. Mais pas seulement nous voir, nous saluer, nous sauver. Car l'homme déchu est comme une ruine, la ruine de Jérusalem. Les valeurs du monde rendent les hommes misérables. Ces valeurs du monde, même lorsqu'elles ne sont pas pernicieuses, c'est toujours quelque chose d'égotique. Et finalement, curieusement, lorsque les hommes cherchent le bonheur, ils le perdent. Lorsqu'ils se cherchent eux-mêmes pour grossir, ils se perdent aussi. C'est très curieux et paradoxal, mais toutes ces valeurs qui louent l'homme, eh bien, le dissolvent en réalité. Parce qu'elles conduisent toutes à une espèce de ténèbres inextricables. Et cette ténèbre, c'est une véritable prison dont les hommes, quand ils y sont entrés, ne savent plus sortir. On ne sait plus sortir de la jouissance immédiate, on ne sait plus sortir de son écran de télévision, on ne sait plus sortir de tous les rituels qui font la vie présente. Les hommes n'ont plus idée de la transcendance. Oh, ils entendent des gens parler de Dieu culturellement, qu'il y a eu ce christianisme dans la civilisation occidentale qui a eu un tel rôle. Mais ça ne touche rien du tout dans l'homme, ça ne touche pas son âme, ça touche juste une couche superficielle, les infos. Vous savez, il y a des gens qui sont très forts aux triviales poursuites, ils sont capables de répondre à n'importe quelle question, la plus triviale qui soit justement. Mais ils ont des tas d'informations dans la tête comme un ordinateur, mais finalement ils n'en font rien. Ça ne descend pas au niveau du cœur, il n'y a pas cette réflexion, ça ne mène à aucune contemplation. L'homme moderne, c'est un homme qui s'adonne aux triviales poursuites de la vie terrestre. La lumière, au contraire, c'est Jésus, et Jésus nous communique la foi. La foi, c'est un trésor merveilleux. La foi nous permet de vivre, de remplir notre cœur d'une plénitude, d'une lumière qui est l'amour, et notre esprit de cette paix qui surgit de l'intelligence illuminée. Quand on connaît le sens de sa vie, on est dans la paix. C'est un don merveilleux. Et Jésus est appelé par Isaïe le prince de la paix, celui qui vient, celui qui l'annonce 8 siècles avant notre ère, mais qui ne viendra que tardivement par rapport à l'époque d'Isaïe. Celui-là, eh bien, il est le prince de la paix. Et il n'y a pas de paix sans lui. Et la foi, c'est ce qui nous permet de l'accueillir. La foi, c'est ce qui nous permet, c'est l'acte par lequel nous voyons et nous adorons le Verbe de Dieu qui s'est fait chair. C'est un don merveilleux, l'incarnation. Et la foi est le don qui découle directement de l'incarnation du Verbe. C'est sortir de ces ténèbres pour aller vers la lumière. Et ça s'appelle l'espérance. Car nous ne possédons pas encore, évidemment, la pleine jouissance de cette lumière d'en haut, de ce Verbe de Dieu. Mais nous marchons vers lui. Et justement, Noël, c'est une rencontre, pas simplement une visite. Une rencontre comme dans le Cantique des Cantiques. Dieu nous cherche d'un côté. Pourquoi il vient, c'est le mouvement de descente. Et puis, il nous demande de notre part, pour le recevoir, eh bien, que nous le recherchions. Et ça, ça veut dire que les hommes doivent se mettre en mouvement eux aussi pour trouver Dieu. C'est une rencontre, un double mouvement. Descendant et ascendant, aller vers Dieu, c'est le travail de l'homme. Dieu nous cherche. Le Cantique des Cantiques compare le bien-aimé, qui est Dieu, à une biche, à un jeune faon qui court sur le sommet des montagnes et des collines. Cette course, elle nous montre le désir de Dieu de venir à nous. Et pourtant, historiquement, il prend son temps. On voit Isaïe, il commence à lui promettre un salut, mais la réalisation plénière de ce salut, ce ne sera pas le fils du roi auquel Isaïe s'adresse, bien que ce fils de roi aura, comme la prophétie d'Isaïe le dit, un règne de paix, donc il évitera le malheur à son peuple. Mais ça, c'était le sens immédiat. Le vrai sens, c'était Jésus-Christ qui nous le dévoile. Et personne n'aurait pu connaître ce sens-là sans la venue du Christ. Alors il y a cet époux, ce petit enfant dans la crèche qui est comme un jeune faon. La beauté, l'innocence, la pureté, la fragilité du Verbe de Dieu nous montrent eh bien, la bonté de ce Dieu que nous devons accueillir. Sa présence, eh bien, elle renverse et elle bouleverse le cœur de l'homme. Rien n'arrive à bouleverser notre cœur, aucun bien matériel, aucun accaparement des autres, aucune, tout ce qui peut donner l'illusion de remplir le cœur ne le remplit jamais, parce que le cœur, dans les ténèbres, dans les valeurs purement humaines, est comme une outre percée. Mais Jésus, lui, il a ce don merveilleux parce qu'il est notre Créateur et qu'il a la vie en lui-même, comme dit le prologue, en lui était la vie. Et c'est pour ça qu'il est si efficace et si puissant. Dès qu'il arrive, notre cœur est bouleversé, notre cœur le reconnaît. Même si notre tête est complètement dans l'idéologie, complètement dans le refus, complètement dans l'orgueil, le cœur, lui, reconnaît toujours la source de la vie. Et c'est comme ça que Dieu propose eh bien, la foi au long des âges à tous ceux qui, à tous ses enfants. Son désir est ardent et c'est pourquoi il court, ce jeune faon. Nous devons, à notre tour, chercher Dieu. Vous voyez, c'est la démarche des mages. Pendant que Marie eh bien, vivait sa gestation divine, eh bien, les mages en vivaient une autre en cheminant vers Jérusalem d'abord, puis Bethléem, en suivant une étoile qui est la lumière de sagesse, qui est l'Esprit Saint, celui-là même qui éclairait le prophète Isaïe. Eh bien, eux aussi, venant des lointains, des païens, se rendent à Jérusalem. Là, ils rencontrent les interprètes de la Bible. L'étoile s'arrête. Elle laisse parler l'Écriture. Puis, l'Écriture ayant parlé, elle reprend et elle les conduit à Bethléem jusqu'à la grotte. Il y a les bergers. Les bergers n'auraient jamais rencontré Jésus si l'ange ne leur était apparu. Avec cette musique extraordinaire du royaume des cieux qu'ils laissent entrevoir à leurs oreilles. Alors là, les bergers sont bouleversés. Eux aussi, et ils se rendent eh bien, à cette crèche. Il faut que les gens, lorsque l'appel de Dieu se fait entendre, il faut que les gens se mettent en route. L'Immaculée elle-même a dû se mettre en route avant l'Annonciation. Et c'est pourquoi elle a mérité cette Annonciation. Pas par sa nature, mais parce qu'elle a su garder la fidélité à cette nature quasi angélique qui était la sienne. L'Immaculée a vécu dans un monde où Dieu n'était pas. Mais pas du tout. Il y avait peut-être une foi religieuse, un temple. Mais Dieu n'était pas dans les mœurs de ses contemporains. Et l'Immaculée était tellement étrangère à Nazareth ou ailleurs, à ce monde qui l'entourait. Marie a cherché Dieu depuis son plus jeune âge. Elle désirait Dieu comme la bien-aimée du Cantique des Cantiques. Et c'est pourquoi elle a mérité cette annonciation. Bien sûr, Dieu savait que la Vierge le chercherait, mais il lui a quand même demandé de le faire. Personne, tout le monde, tous les protagonistes qui encadrent la naissance du Christ ont dû se mettre en route pour chercher le Sauveur, pour aller à sa rencontre. Nous devons donc chercher Dieu. Ça, c'est très important, ce grand message que Noël nous donne. Nous devons désirer rencontrer Dieu, le voir, l'aimer. Parce que l'amour de Dieu n'est pas quelque chose en notre pouvoir. C'est un don, comme la foi. Et ça, quand on est devant la crèche, on s'en rend compte. Et on reçoit cette douceur de Noël. Alors, accueillons-la. Noël, c'est une mémoire émue de celui que nous cherchons, de celui que nous désirons, de celui que nous voulons désirer, que nous voulons aimer. C'est la liturgie devient vie dès lors que la foi, eh bien, nous met en mouvement. Dieu peut tout avec rien. Vous voyez, c'est le sens vraiment de l'incarnation du Verbe. Et c'est toujours un petit reste dont Marie est la reine qui est témoin de ce grand mystère. Alors oui, réjouis-toi, ruine de Jérusalem, disait Isaïe, parce que ton Sauveur vient. Oui, réjouis-toi, petit reste, même si apparemment le monde entier semble coaliser pour te plonger dans ces ténèbres. Réjouis-toi, car la foi te mènera à la lumière véritable. Allons à la crèche et adorons celui qui déjà s'offre par anticipation, eh bien, à notre désir. Il est l'image, il est dans une mangeoire, il est l'image de l'Eucharistie. Il est dans les bandelettes, comme au tombeau, et il préfigure déjà ce sacrifice merveilleux de l'agneau qui est son second nom, son nom divin. L'agneau de Dieu. Voilà celui que nous contemplons, ce jeune enfant que le cantique proclame.